Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Prenez vos Bibles et lisez Matthieu chapitre 6. Nous poursuivons un examen des versets 24 à 34. Un chapitre et un passage merveilleux, familier, riche de la parole de Dieu. Ce passage, 6, 25 à 34, est une portion d'un plus grand texte, chapitre 5, 6 et 7, qui constitue le sermon sur la montagne, prêché par le Seigneur Jésus lui-même. Et donc, c'est une instruction qui provient directement de la bouche de Christ, et il est vraiment pratique. Il nous touche là même où nous vivons. Si vous étiez ici avec nous la semaine dernière, vous sauriez que nous avons commencé à étudier le passage, et nous allons poursuivre ce matin, espérant faire un petit rappel afin que ceux qui n'étaient pas ici se retrouvent. Le cœur de ce sujet dont Jésus parle est le matérialisme, le fait de nous inquiéter de nos finances, nous inquiéter de notre vie, nous inquiéter de notre existence terrestre, nous inquiéter parce que nous ne savons pas si nous aurons assez du nécessaire pour survivre. L'injonction que le Seigneur donne trois fois dans ce passage est que nous ne devons pas nous inquiéter, qu'une telle anxiété ou préoccupation, une telle peur, une telle inquiétude, un tel souci n'a absolument aucune place dans la vie d'un chrétien. Et bien sûr, c'est nettement une antithèse de tout ce que nous connaissons dans notre monde. Le monde dans lequel nous vivons est littéralement préoccupé par les choses matérielles. Nous vivons dans un monde totalement matérialiste. La vie des gens commence et s'achève avec les choses qu'ils possèdent. Et c'est l'opposé exact de ce que les Écritures enseignent quand elles disent « La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de choses qu'il possède. » Et pourtant, si vous devez aller au cœur de la chose et aux vraies questions de la vie humaine, même ici dans notre pays, vous vous rendrez compte que la plupart des gens ne vivent pour rien de plus et rien de moins que toutes les possessions qu'ils peuvent acquérir pour nourrir leur style de vie souhaité. Dans le dernier numéro du magazine Fortune, il y a un article intitulé « Courir en vitesse vers la bonne vie ». Ce magazine avait envoyé ses rédacteurs faire un sondage. Ils ont sondé dans toute l'Amérique les jeunes hommes et femmes âgés de 25 ans qui sont sur l'échelle administrative dans le monde des affaires. Ils avaient mené une étude similaire il y a 25 ans et ils voulaient savoir ce que ce leader de 25 ans, un homme d'affaires qui gravit l'échelle de la réussite dans une entreprise, recherche dans la vie. Ce qu'il attend de la vie, ce qu'il recherche véritablement, ce que sont ses buts et objectifs. Et donc l'auteur, Wayne Kincaid, a écrit l'article à la fin de ce sondage. Je suppose que cela ne devrait pas nous choquer, mais c'est choquant, et je suis content d'avoir encore un reste de capacité à être choqué en moi. Mais je voudrais partager avec vous quelques extraits de cet article, pour que vous puissiez savoir ce qu'attend la jeune génération en Amérique. L'article rapporte que, de nos jours, les débutants en affaires de 25 ans savent ce qu'ils veulent et l'exigent sans complexe. Ils planifient, dit l'auteur, pour avoir ce qu'ils veulent. Et que veulent-ils? Quel est leur objectif? Que recherchent-ils à accomplir? Simplement dit, ils mettent leur travail avant tout autre engagement, y compris le mariage et les enfants que certains prétendent qu'ils ne voudront jamais. Bien, pourquoi? Pourquoi avons-nous une génération de personnes qui ne chérissent pas les relations, qui ne veulent pas du tout s'engager au mariage ou avoir des enfants, mais qui ne sont qu'à la poursuite de l'emploi? Et la réponse obtenue lors du sondage est que les relations ne sont pas ce qu'ils veulent, c'est l'argent qu'ils veulent. Ils voient le travail comme un moyen de l'acquérir. Ils désirent une plus grande sécurité économique. Ils sont attirés, dit l'auteur, vers de grandes affaires pour de l'argent. Et avec l'argent, bien le prestige, l'autorité et la réputation. L'auteur dit qu'ils sont guidés par des exigences hautement matérialistes. Ils défendent le succès et veulent l'avoir à l'immédiat. Elle continue en disant qu'ils sont confiants. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils ne pensent pas qu'ils sont chanceux. Ils pensent qu'ils sont bons. La majorité d'entre eux pensent qu'ils sont un matériau vedette et ont hâte de dégager quiconque se tient devant eux. L'auteur dit « Leur ambition est dévorante. Ils sont arrogants. Ils redoutent l'anonymat. Ils ont peur de se perdre dans la mêlée. Et ils ont peur d'être inaperçus dans des entreprises anonymes. Ils veulent être quelqu'un. Ils veulent l'être dans l'immédiat. Ils veulent réussir aux dépens de n'importe qui d'autre. Ils veulent l'argent et tout ce qui va avec. » Et l'auteur continue en disant « Ils sont de fins adeptes à l'art de l'autopromotion. En fait, écrit-elle, ils pratiquent sans relâche une commercialisation de soi sophistiquée, espérant de ne pas avoir à faire beaucoup de coups bas vers le haut. » L'article continue en disant qu'ils n'ont pas d'engagement vis-à-vis de l'entreprise qui les emploie, sauf qu'ils veulent gagner autant d'argent que possible. Alors ils saisissent chaque opportunité dès que c'est possible d'avoir plus d'argent. Et voici ce qu'ont répondu certains de ces jeunes hommes et femmes de 25 ans qui ont été interviewés. « Je veux ce que je veux, quand je le veux. » On dirait un enfant d'un an et demi, n'est-ce pas? Un autre a dit « Je ne veux aucune limite mandataire ou monétaire. » Edward Beam, un officier de planification à Chicago Northern Trust Company, a dit « J'aime les enfants, mais je ne veux pas en avoir. Je suis trop égoïste. » Une autre femme, Laurie Graves, à Northrop, ici, à Hawthorne, Californie, dit « Nous aurons des enfants quand nous aurons assuré une bonne sécurité financière pour pouvoir en prendre bien soin, pour que je puisse continuer à travailler. » L'auteur dit qu'il se préoccupe de réussir dans un acte et d'être vu. Ils ne se sentent pas obligés d'aider les autres. Peu d'entre eux consacrent du temps au service public, au bénévolat, aux problèmes sociaux, et la religion leur semble trop prohibitive et inactuelle. Ils ne s'intéressent ni à personne ni à rien d'autre qu'eux-mêmes. Terry Michel, qui est une femme stagiaire chez Connecticut General Life Insurance Company, compagnie d'assurance vie générale du Connecticut, dit « Je savais que les affaires me récompenseraient en proportion directe avec mes réalisations. J'aime dépenser l'argent. Je n'ai pas eu le sentiment de perdre quelque luxe que ce soit. » Alors l'auteur de l'article dit de tous ces gens que c'est une bande de personnes extrêmement avides. Dwight Billingsley, consultant utilitaire dans une firme de Washington, D.C., joue une corde ordinaire. Il dit « J'ai l'intention de monter ma propre entreprise, d'être indépendant, et de ne rendre compte à personne. Bien que j'ai maintenant plus d'argent que je n'avais jamais pensé possible, je veux tout l'argent du monde. » Ils insistent sur la satisfaction, dit l'auteur, et elle dit que ce sont des matérialistes incorrigibles qui recherchent un travail qui leur permette d'épargner au maximum le matériel électronique, ainsi que des divertissements fréquents et les voyages. Et dans leur aversion pour les symboles d'un statut conventionnel, ils semblent être inconscients du fait qu'ils sont en voie de créer le leur. Une femme a dit à leur sujet, une jeune de 25 ans a dit, « Nous voulons nous assurer que ma carrière est bien établie, que nous avons toutes les choses matérielles que nous voulons, que nos factures sont couvertes, afin de ne pas peiner sur le peu d'argent que nous aurons pour nous occuper d'une famille. Avec notre style de vie, nous ne pouvons pas encore nous permettre de prendre soin des enfants et d'avoir les choses que nous aimons. Les enfants sont une intrusion dans notre ère matérialiste, et quand les gens ont quand même ces enfants, ils veulent s'assurer d'avoir une personne pour s'en occuper. Je l'ai déjà dit, et je vais encore le dire. La plus grande malédiction des États-Unis est la femme professionnelle. Et c'est cela qui continue d'être notre malédiction, parce que cela détruit littéralement la famille. Elles sont matérialistes. Elles sont des matérialistes incorrigibles. Elles sont guidées par l'ambition, la cupidité, la motivation de réussir, le prestige et la promotion. Pour que nous puissions voir un changement dans le monde et toucher notre société, nous devons être des chrétiens de distinction. Et j'ose dire que quelque part, nous sommes autant matérialistes que ceux qui appartiennent à notre système. Nous souffrons tous des incursions, des tentations et de la puissance du monde matérialiste dans lequel nous vivons. Nous sommes tous devenus victimes. Quelle vision le chrétien a-t-il des choses matérielles? Quelle vision le chrétien a-t-il de l'argent et des biens? Où nous tenons-nous et qu'enseigne la Bible? Quelle est ma perspective du luxe et des nécessités de la vie? Bien. La réponse à ces questions n'est aussi bien donnée nulle part qu'ici par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, ce que vous avez dans Matthieu 6, 19, 34 est le plus grand enseignement de Jésus sur la perception que nous devons avoir des choses matérielles. Maintenant, nous avons déjà étudié les versets 19 à 24, et il parle de ce que le Seigneur dit du luxe. Aujourd'hui, nous étudierons les versets 25 à 34, dans lesquels il parle de notre conception des nécessités. Le Seigneur touche aussi bien ce qui est au-delà de ce dont nous avons besoin que ce dont nous avons besoin, et il nous dit où notre engagement doit être. Maintenant, souvenez-vous que quand nous avons étudié les versets 19 à 24, nous avons parlé du luxe. Quelle est notre perspective du luxe, ce qui est au-delà de ce dont nous avons besoin pour les besoins de base? Bien, la simple affirmation de notre Seigneur est dans le verset 20. Amassez-vous un trésor au ciel. Nous devons investir au ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons nous engager à placer ce que nous possédons dans un investissement éternel. Nous ne devons pas le mettre dans les choses terrestres, verset 19, parce que les vers et la rouille et les voleurs le détruiront. Alors quand il s'agit du luxe ou de l'abondance, nous devons investir au ciel, et nous avons amplement étudié cela. Nous devons le faire pour trois raisons. La première raison se trouve au verset 21, parce que c'est là que doit être notre cœur. Si vous mettez tout votre trésor sur la terre, c'est aussi là que sera votre cœur. Vous vous ferez du souci pour votre compte en banque, au lieu du royaume de Dieu. Mais si vous investissez tout ce que vous avez dans les choses de Dieu, aux fins de Dieu, pour la volonté de Dieu, pour les desseins de Dieu et les projets de Dieu, alors c'est là que sera votre cœur, pendant que vous verrez votre investissement produire des dividendes éternels. La première raison, donc, pour investir notre luxe pour une portée éternelle, c'est pour que notre cœur y soit. La deuxième raison se trouve au verset 22 et 23. Nos yeux spirituels sont ouverts. Et ce que le Seigneur dit dans ces versets, c'est que si vous investissez sur la terre, vous diminuez votre vue spirituelle et vous devenez aveugle quant aux réalités spirituelles. Si vous investissez dans les choses éternelles, votre vue augmente et la lumière de Dieu envahit votre cœur. La troisième raison pour laquelle nous devons investir notre luxe dans une chose aux conséquences éternelles est que cela prouve que nous servons Dieu et non l'argent. Il rend notre service à Dieu sans partage. Alors, pour ce qui est du luxe, nous devons investir dans l'éternité. Nous ne l'empilons pas et ne l'amassons pas ici. Et nous le faisons parce que notre cœur est là où il devrait être. Notre vision spirituelle est claire et notre service sans partage. Maintenant, je me réjouis toujours quand je vois quelqu'un qui est tellement libre dans son esprit pour faire ceci, comme une personne qui nous donne une maison, qui nous donne une importante somme d'argent ou autre chose. Et vous avez fait la même chose, je suis sûr, investir avec Dieu, magnanimement et généreusement, parce que vous savez que ce qui est éternel est plus conséquent que ce qui est temporaire. Maintenant, à partir de là, il passe aux besoins nécessaires de la vie. Qu'en est-il? Et cela se trouve au verset 25 à 34. Et j'imagine que si nous nous préoccupons d'une chose, c'est des besoins de base. En fait, la raison pour laquelle certains amassent leur luxe, c'est par envie de se protéger d'un manque de choses basiques dans l'avenir. Et nous nous inquiétons de ce qui est basique. Devrions-nous? Le cœur de ce passage est réitéré dans trois affirmations. Le verset 25 dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas ». Le verset 31 dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Le verset 34 dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Le message de ce passage est donc bâti autour de ces trois affirmations. Ne vous inquiétez donc pas. Le premier en grec signifie « cessez d'être inquiet » et les deux autres « ne commencez pas à être inquiet ». Alors il vous concerne, quelle que soit votre position. Si vous n'avez pas encore commencé à vous inquiéter, ne commencez pas. Si vous avez déjà commencé à vous inquiéter, arrêtez. Et le mot « inquiet » merimnas signifie « s'inquiéter ». Être irritable, avoir peur, être anxieux. En fait, sur le manuscrit grec du 1er siècle, qui avait été trouvé et qui avait une liste de noms de certains chrétiens de l'Église primitive, on avait trouvé le nom d'un chrétien, un individu qui s'appelait Tite de Hus à Merimnos. Merimnas signifie « inquiétude ». Vous mettez un « a » devant et le nom signifiera « ne pas s'inquiéter ». Donc son nom était Tite de Hus. L'homme qui ne s'inquiète jamais. Ne vous inquiétez donc pas, dit Jésus. Ne vous inquiétez pas de quoi? Ne vous inquiétez pas, verset 25, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Les besoins de base, votre nourriture, votre boisson, vos vêtements, ne vous inquiétez pas, trois fois. Arrêtez de vous inquiéter, et ne commencez pas à vous inquiéter, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous dites bien, il vous est facile de le dire. Sur quelle base le dit-il? Trois raisons. Trois raisons pour ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas nécessaire à cause de votre père. Ce n'est pas caractéristique de votre foi. Ce n'est pas sage à cause de votre avenir. Alors le père, la foi, l'avenir sont clés. Maintenant, je veux que vous voyez ceci. C'est une présentation autoritaire. La semaine dernière, nous avons vu le premier point, et j'aimerais juste le réitérer, parce que c'est la substance des deux autres. Tout d'abord, nous ne devons pas nous inquiéter des besoins de base, parce que ce n'est pas nécessaire, vu que Dieu est notre Père. Il y a deux semaines, nous avons établi une théologie substantielle au sujet de Dieu, qui est le propriétaire de toutes choses, celui qui contrôle et qui pourvoit à toutes les ressources du temps et de l'éternité. Et si votre concept de Dieu est correct, et vous voyez qu'il est le propriétaire, le contrôleur, le pourvoyeur, alors sachez en plus que non seulement il possède, contrôle et pourvoit, mais aussi qu'il est votre père, et un père aimant, et que vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, parce que s'il a tout sous son contrôle, et que tout ce qu'il contrôle, il le contrôle pour ses enfants, et vous êtes son enfant, cela devrait mettre fin à l'inquiétude. C'est essentiellement ce que nous avons déjà vu. L'inquiétude est absolument insensée, à cause de qui est votre père. Maintenant, regardez Matthieu chapitre 7 pendant une minute, et laissez-moi vous donner un aperçu de ce que nous verrons les semaines à venir, au verset 7-11. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Maintenant, ces deux versets ont été appliqués à beaucoup de choses, et peuvent, à juste titre, s'appliquer à plusieurs choses. Mais la chose essentielle dont notre Seigneur parle ici, c'est la question de la subsistance physique, parce qu'il illustre ce principe dans les versets 9 et 10. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? En d'autres mots, en termes humains, vous savez qu'un homme ne donnera jamais une pierre à manger à son fils si ce dernier lui demande du pain, et il ne donnera pas un serpent à son fils qui lui demande un poisson. Autrement dit, les pères humains donnent à leurs enfants ce que ces derniers veulent, si ce qu'ils veulent est ce dont ils ont besoin. Ensuite le verset 11. Si donc vous qui êtes mauvais, les hommes sont naturellement mauvais, nous sommes pécheurs, mais si nous qui sommes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, ce qui veut dire qu'il n'est pas mauvais, mais il est absolument bon, juste, saint, parfait et excellent, en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et les bonnes choses, encore une fois, il s'agit principalement des choses nécessaires à la vie. Si un Père mauvais, un Père pécheur, et nous sommes tous pécheurs, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, un Dieu absolument saint ne saurait-il pas donner de bonnes choses à ses enfants? Alors de quoi nous inquiétons-nous? Que ce soit la nourriture, Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il est votre Père céleste, et s'il peut prendre soin des oiseaux, ne pensez-vous pas qu'il prendra soin de vous? Et c'est une illustration de la nourriture. Il pourvoira votre nourriture. Le prochain point est l'illustration de l'avenir. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Vous savez, il y a des gens qui se soucient, et se soucient, et se soucient de la durée de leur vie. Ils se soucient de la mort, ils ont peur de la mort. Certaines personnes ne veulent pas entrer dans l'avion. Certaines personnes ont peur des maladies. Ils vont d'un médecin à l'autre, et à un autre, d'un programme de santé à un autre, et à un autre encore, d'un flacon à un autre, et à un autre encore, prenant des vitamines, des pilules, et ils vivent dans une peur constante pour leur vie. Quel bien cela fait-il? Votre Père s'en occupe, et toutes les inquiétudes du monde n'ajouteront rien à votre vie. Au contraire, elles soustrairont de votre vie. Troisièmement, nous voyons non seulement une illustration de la nourriture, de l'avenir, mais aussi de la mode. Il dit, et certains parmi vous s'inquiètent pour leurs vêtements. Si vous avez assez de vêtements, ou si vous avez des vêtements en phase avec la mode actuelle, Et je vous assure, quand vous aurez fini de vous habiller, vous ne pourrez pas être aussi bien habillé que le beau lys des champs. Alors pourquoi ne laissez-vous pas Dieu s'occuper du vêtement? Il habille les lys. Salomon, le plus riche de tous les hommes à avoir vécu, ne pouvait pas avoir de vêtements aussi beaux que les pétales d'une fleur. En d'autres termes, Dieu s'occupe de la nourriture, il s'occupe de la durée de vie, et il s'occupe du vêtement. Il fait toutes ces choses qui participent à la subsistance. En passant, les gens disent toujours « Bien, vous savez, Dieu nous a créés nus, et c'est ainsi que nous devons être. Écoutez, Dieu veut pourvoir des vêtements. Je veux que vous le sachiez. Depuis la chute de l'homme, les gens s'habillent. Vous savez, les nudistes veulent faire croire que Dieu voulait que les gens soient nus. Il ne l'a jamais voulu. C'est la raison pour laquelle il les a habillés dans le jardin. J'ai lu dans le magazine Times, cette semaine, l'histoire de deux femmes qui croyaient que si elles avaient la foi de la graine de moutarde, elles pourraient être guéries de leur infirmité. Alors elles ont pris tous leurs vêtements et se sont peintes avec de la moutarde jaune française, et elles couraient dans toute la ville, et elles brandissaient la promesse de Dieu quand elles se sont fait arrêter. Bien, elles devaient être arrêtées. Je veux dire, ce n'est pas comme si Dieu n'avait pas pourvu les vêtements pour elles. Il a pourvu la moutarde. Elles ont seulement préféré la moutarde aux vêtements. Il leur a donné la moutarde comme nourriture et les vêtements pour porter. Mais Dieu pourvoit les choses essentielles de la vie. C'est cela la promesse. Et la promesse est basée sur le fait que Dieu est notre Père. C'est cela la substance du premier point. Et la dernière fois, nous l'avons amplement parcouru. Dieu est un Père d'amour qui pourvoit pour ses enfants. Dans le psaume 34:11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Si vous regardez dans le royaume des animaux, vous verrez qu'il y a des moments où les lionceaux ont faim. La mère n'est pas disponible. La mère ne pourvoit pas la nourriture, ou elle n'est simplement pas là. Et pourtant, il dit, « Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Je veux dire que les animaux pourraient être dans le manque, mais le peuple de Dieu ne le sera pas. Dieu soutient les siens. C'est une vérité biblique répétée. Et tout comme moi, vous pouvez la trouver partout dans les pages de la Bible. Dieu soutient son peuple. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon quoi? Sa richesse en gloire, en Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pourquoi devez-vous vous inquiéter de la vie et de la durée de votre vie? Ou alors, si vous êtes une mère ou un père, vous avez cette préoccupation pour vos enfants. Pourquoi devriez-vous vous en inquiéter, alors que toutes vos inquiétudes ne peuvent ajouter un jour à votre vie? Pourquoi devriez-vous être dans la détresse, à vous demander si vous aurez assez de nourriture, alors que le Dieu qui vous a donné la vie vous donnera le don inférieur qui soutient la vie? Pourquoi vous inquiétez du vêtement, alors que Dieu a conçu le vêtement pour l'être humain, et vous êtes ses enfants, et il vous donnera de quoi vous vêtir? Pierre était un homme qui savait s'inquiéter. Oh, il s'inquiétait des choses tout le temps. Il avait peur de se noyer quand il marchait sur l'eau, alors que le Seigneur était avec lui. Il s'inquiétait de ce qui devait arriver à Jésus dans le jardin. Il a sorti une épée et a essayé de combattre les Romains. Il s'inquiétait de ce que Jésus allait être crucifié et lui a dit de ne pas le faire. Il savait vraiment s'inquiéter. Il était très anxieux, mais finalement, il comprit le message et écrivit une profonde vérité dans 1 Pierre 5:7. Il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Car il prend soin de vous. Il lui avait fallu du temps pour l'apprendre, mais il finit par l'apprendre. » Et donc notre Seigneur dit premièrement de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas nécessaire à cause de votre Père. Et si vous vous inquiétez, il clôture le verset 30 avec cette déclaration. Gens de peu de foi. Si vous vous inquiétez, quelle foi manifestez-vous? Peu de foi. Une foi malingre, inadéquate, infime. Une petite foi. Le résumé d'une vie qui s'inquiète pour la nourriture, le vêtement et la durée de vie. Et que vous avez peu de foi en Dieu. Maintenant, cette expression « gens de peu de foi » est utilisée 4 autres fois dans les évangiles, et son usage est des plus fascinants. Elle est utilisée, par exemple, dans Luc 12:28, quand les gens s'inquiètent du vêtement. Elle est utilisée dans Matthieu 8:26, quand les disciples avaient peur de se noyer. Ils se souciaient de la durée de leur vie. Ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur de se noyer. Le Seigneur allait les abandonner. Ils lui dirent « Comment peux-tu dormir alors que la tempête menace de nous noyer ?» Dans Matthieu 14, encore une fois, c'est Pierre qui avait peur de se noyer, peur de perdre la vie. Et l'expression est encore utilisée dans Matthieu 16:8, quand il s'inquiétait pour la nourriture. Chaque fois que cette expression est utilisée, gens de peu de foi, elle est au sujet d'une personne qui s'inquiétait pour la nourriture, le vêtement ou la durée de sa vie. Les mêmes trois choses dont Jésus parle dans ce premier point. Alors cette expression devrait résumer ce point. Et à chaque fois, il s'agissait des disciples. Cinq fois où cette expression est utilisée, Jésus s'adressait aux disciples. « Vous qui devriez mieux savoir, je n'attendrai pas cela des gens du monde, mais vous qui avez eu la foi salvatrice. Ô gens de peu de foi, vous croyez que Dieu peut vous racheter, que Dieu peut vous sauver du péché, briser les chaînes de Satan, vous amener de l'enfer au ciel, vous mettre dans son royaume, vous donner la vie éternelle. Mais vous ne croyez pas du tout qu'il peut vous obtenir de quoi porter et de quoi manger pour les quelques jours à venir. Ridicule. Vous voyez, nous pouvons avoir la foi en Dieu pour un plus grand don, mais nous trébuchons, murmurons, et nous n'arrivons pas à avoir la foi en lui pour les dons de moindre importance. Nous croyons que Dieu nous prendra au ciel quand nous mourrons, mais nous ne croyons pas que Dieu pourvoira un repas pour nous, ou même qu'il assurera la durée de notre vie. Comme c'est insensé. Comme c'est insensé. Vous voyez, dans chacun de ces cas où cette expression est utilisée, Jésus parle à ses disciples, ce qui pour moi signifie que ce passage concerne les croyants. Il n'aurait jamais dit aux non-croyants, gens de peu de foi. Que leur aurait-il dit? Gens sans foi. Nous avons la foi. Seulement, nous ne nous en servons pas. Nous ne l'appliquons pas. Et écoutez, quelqu'un pourrait dire, bon, l'inquiétude, c'est juste, vous savez. C'est un péché mignon, trivial. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas un péché trivial. Je pense que, probablement, 100% de toutes les maladies mentales sont directement liées à l'inquiétude. Et la plupart des maladies physiques, l'inquiétude est dévastatrice, mais plus que cela. Ce n'est pas ce que l'inquiétude vous fait. Il s'agit de ce que l'inquiétude fait à Dieu. Parce que quand vous vous inquiétez, vous dites en effet, « Dieu, je sais que tu n'arrêtes pas de le dire. » Mais je ne suis pas sûr de pouvoir te faire confiance. Et ainsi l'inquiétude donne une gifle à la parole et à la personne de Dieu. Voyez-vous, à mes yeux, l'inquiétude est un péché monumental. Vous voyez, l'inquiétude réfute les Écritures. Et vous pouvez passer toute votre vie à dire « Je crois au caractère inhérent de la Bible. Je crois en l'autorité absolue de la Bible. Je crois en l'inspiration verbale plénière de chaque parole. » Mais ensuite, vous passez votre vie à vous inquiéter. Et d'un côté de votre bouche, vous dites une chose, et de l'autre côté, vous dites une toute autre chose. Autrement, comment pouvez-vous dire à quel point vous croyez en la Bible, et ensuite vous vous demandez si Dieu va faire ce qu'il dit dans cette Bible? Vous voyez, s'inquiéter signifie que vous êtes assujetti par vos circonstances, et non par la vérité de Dieu. Vous voyez, l'inquiétude confond votre position d'enfant de Dieu. L'inquiétude est un péché dévastateur. L'inquiétude est une anxiété meurtrière, débilitante, complaisante et possessive qui dit « Dieu ne peut pas s'occuper de moi, et je dois moi-même faire le nécessaire. » C'est cela le péché. Cela fait de Dieu un menteur. Cela fait fi de son amour. Cela fait fi de sa puissance. Je ne comprends pas comment les gens peuvent amplifier les vicissitudes, les épreuves et les circonstances de la vie, plus que leur salut. Ils peuvent croire que Dieu les sauvera de l'enfer éternel. Ils n'arrivent pas du tout à croire qu'il peut les aider dans ce monde. Cela n'a aucun sens. Je vous assure, vous devriez retourner lire encore Éphésiens, chapitre 1, et réitérer ce que Dieu vous a donné. Paul dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous ayez les yeux ouverts, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » Et que vous sachiez quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, vous feriez mieux de retourner dans les Écritures pour ouvrir à nouveau vos yeux. Essentiellement donc, si vous vous inquiétez, c'est parce que vous n'avez pas confiance en votre Père Céleste. Et si vous ne faites pas confiance à votre Père Céleste, ce sera premièrement parce que vous ne le connaissez pas suffisamment bien. En effet, si vous le connaissiez, vous lui feriez confiance, pas vrai? Vous feriez mieux de vous plonger dans la parole de Dieu et savoir qui il est réellement, et comment il a, par le passé, pourvu aux besoins de son peuple. Et cela bâtira la confiance pour le futur. Et je vais ajouter que même ceux d'entre nous qui connaissons Dieu, qui étudions la parole, et qui sommes remplis de cette connaissance de Dieu, nous pouvons aussi nous soucier de temps à autre. Mais savez-vous quand cela arrive? Quand vous n'êtes pas frais dans la parole, chaque jour, chaque jour, à tel point que Dieu est dans votre pensée. Et ensuite, Satan entre dans ce vide où vous ne pensez pas à Dieu et commence à vous pousser à l'inquiétude pour quelque chose. C'est un péché, gens de peu de foi. Dieu est digne d'une plus grande foi que celle que vous lui accordez. Passons maintenant au deuxième point. La deuxième raison pour laquelle l'inquiétude est un péché est qu'elle n'est pas caractéristique de notre foi. Elle n'est pas nécessaire à cause de notre Père. Elle n'est pas caractéristique de notre foi. Verset 31. Il revient encore une fois sur le principe. Voici la deuxième affirmation à ce sujet. Arrêtez de vous inquiéter, ou dans le cas d'espèce, ne commencez pas à vous inquiéter. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous? Les mêmes trois choses. Écoutez, voici une autre déclaration du même principe telle que donnée au verset 25. Ne vous inquiétez pas pour les choses essentielles. Pourquoi? Verset 32. Car ceux-là, ce sont les païens ou les gentils qui le recherchent. Maintenant, que dit-il? Il dit que ce n'est pas caractéristique de notre foi d'agir comme les païens. Cela est pour les mondains. C'est pour les surdoués de 25 ans du monde des affaires, pas pour les chrétiens. Pour nous, l'inquiétude n'est pas nécessaire à cause de la générosité de Dieu. Cela n'a pas de sens quand on considère la promesse de Dieu. C'est inutile à cause de notre incapacité à faire quoi que ce soit de toute façon, et c'est un manque de foi, parce qu'en effet, cela nous met dans la catégorie du non-croyant, les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, et les mots gentils, païens, barbares, signifient la même chose. Ils veulent dire « gens sans Dieu, sans Christ ». Ces gens s'inquiètent de ces choses. Bien, pourquoi pas? C'est tout ce qui marche pour eux. Ils vivent pour ce monde. Ils vivent pour saisir, attraper et posséder. Et donc, ils doivent l'obtenir eux-mêmes. Ils n'ont pas un Dieu qui pourvoit pour eux. Ils n'ont pas un Dieu qui leur fait des promesses. Ils n'ont aucune ressource humaine pour leur venir en aide. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent saisir. Ils doivent le faire tout seuls, parce qu'ils sont tout seuls. Ils ignorent la provision de Dieu et n'y ont aucun droit, de toute manière. Alors, avec inquiétude et anxiété, ils se focalisent sur ces choses. Mais cela n'a pas de sens pour un chrétien. Et en passant, cela n'a pas d'excuse non plus. Ce n'est pas un péché trivial, c'est un péché grave. Juste pour vous montrer comment les païens n'ont aucune source extérieure pour ces choses. Même quand ils inventent un dieu, même quand ils fabriquent une déité, inévitablement, leurs déités ne sont pas vraiment des déités sur lesquelles ils comptent avec confiance. Chaque fois que les nations du monde font leur propre dieu, ils sont des dieux de Satan. Ce sont des démons qui sont derrière ces dieux. Et ce sont des dieux aux promesses brisées. Ce sont des dieux qui manquent de compassion. Ce sont des dieux de peur. Ce sont des dieux de la terreur. Ce sont des dieux qu'il faut apaiser. Ce sont des dieux dont tout le monde a peur, pas des dieux sur lesquels tout le monde compte. Ce ne sont pas des dieux qui pourvoient. Les gens doivent toujours s'en sortir tout seuls, et ils doivent sans cesse caresser le dos de ce dieu par des sacrifices, ou tout ce que demande leur religion. Et parce qu'ils ont une idée très vague de la vie à venir, ils se laissent consumer par l'obsession d'obtenir et d'avoir le confort, les richesses, la sécurité, le prestige, et tout cela, et leur Dieu ne leur aide absolument aucune aide. En passant, l'expression pour toutes ces choses, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Le mot grec pour rechercher confère l'idée d'une quête minutieuse. Ils les recherchent de toutes leurs forces, totalement consumés par des gratifications matérielles. Manger, boire, se réjouir. Demain nous mourrons, c'est tout. Empoignez tout ce que vous pouvez. Faites-le maintenant, l'ami. C'est tout ce qu'il y a dans la vie. Maintenant imaginez-vous un enfant de Dieu, un chrétien qui aborde la vie de cette manière. Les mondains, dit Luc, recherchent ces choses. C'est indigne pour nous. Notre foi, la foi chrétienne, dit que Dieu pourvoira tous mes besoins. Et Dieu est digne de confiance. Et si je m'inquiète pour ce que je vais manger, de mon bien-être physique, ou si je m'inquiète de ce que je vais porter, cela signifie que j'ai une pensée mondaine. Paul dit, « Ne vous inquiétez de quoi ? Rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Ceux qui n'ont pas confiance en la bonté de Dieu et aux promesses de Dieu ratent toute la raison d'être chrétien. » Tellement de personnes sont si vides dans leur profession. Vous savez, ils disent, « Oh, nous aimons Christ et nous servons Dieu. » Mais ils n'ont foi en Dieu pour rien. Ils s'inquiètent pour tout. Ils sont dans le monde et sont comme le monde. Mais Jésus dit, « Père, je sais qu'ils seront dans le monde, mais préserve-les du malin qui est dans le monde. Garde-les séparés. » Dans Romains 12:2, Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Voici ce que Jésus est en train de dire. « Les fils du royaume ne se conduisent pas comme les mendiants du diable. » Posez-vous la question. C'est une question pratique. Est-ce que j'affronte la vie comme un chrétien ou comme un païen? Quand les choses sont difficiles et l'avenir incertain, comment est-ce que je réagis? Parce que vous allez énormément découvrir si vous avez confiance en Dieu ou non. J'imagine que vous pouvez résumer la question de cette façon. Ma foi chrétienne affecte-t-elle ma vision de la vie? Est-ce que je mets toujours tout dans le contexte de ma foi, chaque épreuve, chaque anticipation, chaque réalité? Et il retourne à la première raison à la fin du verset 32. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Savez-vous la différence fondamentale entre les dieux des païens et notre Dieu? Les dieux des païens sont muets, ignorants, n'existent pas. Ils ne savent rien. Ils ne peuvent en rien aider leurs adorateurs parce qu'ils n'existent pas. Ils sont ignorants. Mais notre Dieu sait tout. Et si vous croyez que notre Dieu est amour, qu'il prend soin, c'est la première partie. Et maintenant, vous voyez que notre Dieu sait tout. Qu'y a-t-il d'autre? Si Dieu sait ce dont j'ai besoin, et si Dieu connaît ma vie, et Dieu connaît mes besoins, alors il ne me reste plus qu'à savoir qu'il en prend soin, et s'il sait, s'en charge, alors je suis libre. Voilà l'essence de l'enseignement de Jésus. Car votre Père céleste, en contraste avec les païens, sait ce dont vous avez besoin. Il n'a pas seulement la connaissance, mais il a les ressources, et ensuite il a l'amour pour pourvoir. Alors de quoi devez-vous vous inquiéter? De rien. Ce n'est pas nécessaire, à cause de votre Père. Cela n'est pas caractéristique de votre foi. Passons à la troisième raison, et nous allons sauter un verset, et aller au verset 34. La troisième raison pour ne pas s'inquiéter, c'est que c'est un manque de sagesse, à cause de votre avenir. C'est un manque de sagesse, à cause de votre futur. C'est un point important. Et encore une fois, la même expression introduit ce point. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, ce que le Seigneur dit ici, c'est, écoutez, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Attendez jusqu'à ce que vous y soyez. Ce n'est pas sage, à cause de votre futur. Ne vous inquiétez pas de demain. Maintenant, pourvoir pour demain est parfait. S'inquiéter du lendemain, c'est péché. Parce que Dieu est le Dieu du lendemain, de même qu'il est le Dieu d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, souvenez-vous de ce qu'il dit dans Lamentations. Ses compassions se renouvellent, comment? Chaque matin. Il vous nourrit comme il nourrissait les enfants d'Israël, juste la quantité de manne nécessaire pour la journée, pour laquelle vous en avez besoin. L'inquiétude est une immense force. Je vous dis que c'est une force immense. Voici ce que fera l'inquiétude. L'inquiétude s'efforcera de vous vaincre. Et, si elle commence d'abord par aujourd'hui, l'inquiétude s'attellera pour vous détruire aujourd'hui. Elle essaiera de vous amener à voir les choses aujourd'hui, de vous pousser à la colère et de vous rendre inquiet. Mais si elle perd aujourd'hui, elle continuera à vous pousser dans l'avenir jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui vous accroche. Voilà comment fonctionne l'inquiétude. Il existe malheureusement des gens tellement touchés par le péché de l'inquiétude que lorsqu'ils n'ont aucun sujet de s'inquiéter du présent, ils commencent à fouiner dans l'avenir, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un. Écoutez, le Seigneur dit que chaque jour suffit sa peine. Prenez les ressources d'aujourd'hui pour les besoins d'aujourd'hui. Autrement, vous perdrez la joie d'aujourd'hui. Voulez-vous savoir une chose? Le manque de joie est un péché aussi, et beaucoup de gens perdent leur joie à cause du lendemain, et ils passent à côté de la victoire que Dieu a pour eux aujourd'hui. Pour Dieu, ce n'est pas juste. Dieu vous donne un jour glorieux et heureux aujourd'hui. Vivez à la lumière de ce jour et dans la plénitude de la joie de ce jour. Prenez toutes les ressources que Dieu pourvoit pour ce jour-là et utilisez-les. Ne vous projetez pas dans l'avenir au point de gâcher la joie d'aujourd'hui pour un lendemain qui pourrait ne jamais arriver. Parce que s'il y a une chose que vous devez apprendre de ceci, apprenez cette petite expression. La peur est menteuse. La peur est menteuse. Elle ne vous dit presque jamais la vérité, mais elle vous fera perdre la joie d'aujourd'hui. Le Seigneur interdit cela. Jésus dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Alors laissez de main à demain. À chaque jour suffit sa peine. Et en passant, Dieu ne donne la force que pour un jour à la fois. Dieu ne m'a pas donné encore la grâce pour demain. Je ne l'aurai pas avant demain, n'est-ce pas? Je veux dire que parfois, vous parlez à quelqu'un qui s'inquiète tellement, et il s'inquiète de mourir, ou de quelque chose, et il en est tellement préoccupé. Et ensuite, un membre de sa famille décède, et Dieu accorde une merveilleuse grâce, et une merveilleuse paix, un merveilleux soutien, et pourtant, il n'arrive pas à le comprendre. On me dira, « John, vous savez, c'est merveilleux le soutien que Dieu m'a apporté. C'est vrai qu'il y a une tristesse normale, mais je me sens fort et confiant, et il y a même de la joie dans mon cœur de savoir que mon bien-aimé est auprès du Seigneur, et je ressens la force du Seigneur. Et c'est absolument vrai, parce que Dieu nous accorde la grâce pour cet instant où nous avons besoin de la grâce. Mais si vous voulez vous asseoir maintenant et vous inquiéter pour cela, vous allez doubler votre peine sans avoir la grâce nécessaire pour l'arranger. Il vaut mieux l'endurer en chantant, avec la grâce pour le supporter. Voyez-vous, je refuse de m'inquiéter pour le lendemain, ou le jour d'après, ou le futur, parce que je n'ai pas de ressources pour le faire. Tout d'abord, la peur est menteuse. Alors je ne sais pas la réalité de ce que ce sera. Et deuxièmement, je ne veux pas multiplier mes problèmes sans aucune ressource pour me donner la grâce à ce moment. Alors je porte le fardeau d'aujourd'hui, et quand je vois Dieu ôter le fardeau et me l'enlever, je peux profiter d'aujourd'hui et laisser demain apporter sa peine. Alors, je ne me paralyse pas en m'inquiétant d'un futur dans lequel je ne peux pas vivre. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et quoi ? Éternellement. Cela signifie qu'il fera demain la même chose qu'il faisait hier. Alors, si vous avez une question sur l'avenir, regardez le passé. Vous a-t-il soutenu par le passé ? Il vous soutiendra dans le futur. Avec lui, il n'y a pas de passé, de présent ou de futur. Alors l'inquiétude est un péché interdit. Elle est incompatible avec le Père d'un chrétien. Elle est incompatible avec la foi d'un chrétien. Elle est incompatible avec le futur d'un chrétien. John Stott avait dit « Devenir préoccupé de choses matérielles au point qu'elles absorbent notre attention, notre énergie et nous chargent d'anxiété est incompatible aussi bien avec la foi chrétienne qu'avec le bon sens. C'est un déni de notre Père Céleste, et c'est franchement stupide. J'aime cela. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les font. Mais c'est une ambition totalement déplacée et indigne pour les chrétiens. Écoutez, nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Dieu ne nous a pas abandonnés dans une cabine téléphonique. Il ne nous a pas jetés devant un magasin. Il nous aime et prend soin de nous. Il a toutes les ressources de l'éternité dans sa main et à notre disposition. L'inquiétude est un péché. Alistair MacLean raconte l'histoire de Toller l'Allemand, qui avait un jour rencontré un homme très pauvre. Il dit au pauvre, « Que Dieu vous accorde une bonne journée, mon ami. » Le pauvre répondit, « Je remercie Dieu de ce que je n'ai jamais de mauvaise journée. » Toller dit, « Bon, que Dieu vous donne une vie heureuse, mon ami. » « Dieu merci, » dit le pauvre, « je ne suis jamais malheureux. » Étonné, Toller dit, « Que voulez-vous dire ?» « Eh bien, dit le pauvre, quand le temps est beau, je remercie Dieu. Quand il pleut, je remercie Dieu. Et quand je suis dans l'abondance, je remercie Dieu. Et quand j'ai faim, je remercie Dieu. Et puisque la volonté de Dieu est ma volonté, et que tout ce qui lui plaît me plaît, pourquoi dire que je suis malheureux alors que je ne le suis pas ?» Toller regarda l'homme avec étonnement et demanda, « Qui êtes-vous ? » Il répondit, « Je suis un roi. Où est votre royaume ?» Le pauvre répondit, « Dans mon cœur. J'aime cela. » Une vieille femme avait dit, « Je suis toujours heureuse, et voici mon secret. Naviguer toujours en mer, en gardant toujours le cœur sur le port. » Ésaïe le dit de cette façon, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. C'est de là que provient la paix parfaite, et en passant, c'est l'opposé de l'inquiétude. Maintenant, comment trouvez-vous ce port ? Eh bien, confiez-vous en lui, focalisez-vous sur lui, et c'est le verset 33. Soutenons notre propos. C'est ici le commandement positif, au milieu des négatifs, verset 33. Voici comment vous gardez votre cœur au port. Voici l'opposé. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez trois fois la négation. Voici un commandement positif pour annuler les négations. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. En d'autres termes, focalisez-vous sur le niveau divin, et Dieu se chargera du physique. Vous voyez, Dieu ne veut pas que nous nous impliquions dans le physique. Il veut que nous nous libérions du physique. Alors il dit, « Je me chargerai de cela. Quant à vous, occupez-vous des affaires du royaume. » Étudions ce verset mot par mot, ou expression après expression. Le terme anglais commence par « mais », qui établit un contraste, « de », en grec, et d'après le lexique « arn » et « gingrich », implique que l'usage premier de « de » met l'accent sur le contraste, et je suggère comme meilleure traduction de ce terme « plutôt que de », « plutôt que de vous inquiéter », « plutôt que d'être comme les païens », « plutôt que d'être des gens de peu de foi », plutôt que de coller le futur au présent et de semer la confusion. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, pas ces choses, plutôt que de chercher ce que cherchent les païens, plutôt que d'avoir une orientation matérialiste, plutôt que d'être consumé par les biens de ce monde. Cherchez le royaume. Maintenant, qu'en est-il de l'expression « chercher premièrement » ? Protos. Le mot protos, qui signifie « premièrement », signifie « premier sur une liste de plus d'une option ». Parmi toutes les choses pour lesquelles vous pouvez choisir de vous inquiéter dans la vie, voici la première. Parmi toutes les choses dont vous devez vous préoccuper, et il y a dans la vie beaucoup de choses dont nous devons nous occuper, mais de toutes ces choses, la première est le royaume de Dieu et sa justice. Nous avons une longue liste de choses, celle-là est la première. Maintenant, que signifie chercher le royaume? Bien, le royaume, c'est simplement Baseleia, le règne de Christ, le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, la domination de Dieu, le royaume de Dieu. Nous devons rechercher ce qui est éternel, bien-aimé. Voilà ce qu'il dit. Et je n'ai pas besoin de revenir dessus. Nous l'avons étudié dans Matthieu 6, 10, qui dit « Que ton règne vienne ». Dans nos prières, nous devons nous perdre dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul, en route pour prêcher l'évangile du royaume à Jérusalem, était préparé à défendre sa foi jusqu'à l'épée. Puis vint Satan. « N'y va pas, Paul, n'y va pas, parce que quand tu vas y aller, tu vas avoir beaucoup de problèmes. On va t'emprisonner. Il pourrait même t'ôter la vie, Paul. » Et Paul leur dit, « Écoutez, rien de tout cela ne m'émeut. » Acte 20. « Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Je ne m'intéresse pas à ajouter une coudée à la durée de ma vie. Et je ne me soucie pas d'avoir assez à manger et assez de vêtements. Ma vie importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. Maintenant, c'est ce que signifie chercher le royaume. C'est ce qui peut pousser quelqu'un à aller en mission dans l'obscurité et dire au revoir à toute la mode et aux délices culinaires du monde pour manger très simpliste et pour s'habiller de la même manière. Et ils s'isolent toute leur vie à cette situation parce qu'ils ne se soucient pas tant de ces choses que de l'avancement du royaume. Voilà ce qui fait que quelqu'un prêche Christ, au point où il ne craint pas pour sa vie, parce que le royaume est une préoccupation supérieure à toutes les autres. Maintenant, où est votre cœur? Où est votre préoccupation? Êtes-vous plus soucieux du royaume ou êtes-vous plus soucieux de ce monde? Déversez-vous toute votre énergie dans le globe ou investissez-vous dans le royaume éternel de Dieu? Vous voyez, chercher le royaume revient à chercher à conduire les gens à Christ, parce que vous recherchez la croissance du royaume. Vous voulez que l'évangile du royaume soit prêché. Vous voulez que les gens soient rachetés. Nous ne répandons pas l'évangile à cause d'un impérialisme vicieux, ou comme John Stott l'appelle, à cause d'un certain triomphalisme. On ne cherche pas à avancer le royaume pour des raisons égoïstes. Nous cherchons à faire avancer le royaume par la prédication de Christ, parce que l'objectif, c'est un Dieu glorifié, c'est vrai. Et donc, nous prêchons Christ, et cela étant le royaume. Et je crois que, comme nous l'avons partagé plus tôt dans notre étude de la prière du disciple, rechercher le royaume signifie que je cherche la manifestation du règne de Christ dans ma vie. Je recherche la manifestation du royaume de Dieu dans ma vie, en tant que justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17 dit de manifester son royaume. Alors quand le monde voit la justice dans ma vie, quand il voit la paix, la justice, la joie, et non la tristesse, le monde sait que le royaume de Dieu s'est approché. Comprenez-vous? Vous pourriez dire, « Bien, je veux que les gens soient sauvés, et je veux leur parler de Jésus, et vous passez le temps à vous inquiéter, à avoir peur, à être anxieux, à vous soucier, et toutes ces choses tout le temps, et personne ne croira que vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Ils remettront certainement la puissance de Dieu en cause. Le royaume de Dieu se manifeste dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et cela triomphe de l'inquiétude. Alors nous cherchons le royaume quand nous amenons les gens dans le royaume. Nous cherchons le royaume quand nous le laissons se manifester à travers nous. Je crois que nous cherchons aussi le royaume quand nous attendons impatiemment le retour de Jésus, dans sa gloire du millénaire. Je vais vous dire une chose. Je ne veux pas m'intéresser à empiler les biens dans ce monde, parce que ce sera pour rien quand le royaume viendra, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je les acheter maintenant? Je les aurai gratuitement à ce moment-là. La Bible dit que je serai co-héritier avec Christ. Nous régnerons avec lui éternellement. Nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous aurons toute la majesté et les richesses du ciel éternel. Que ferai-je de tout mon temps que j'aurai passé à amasser les choses ici sur terre? En passant, toute la terre sera détruite de toute façon, et le Seigneur créera un nouveau ciel. Alors, si vous voulez investir sur cette terre qui sera brûlée, c'est votre affaire. J'aimerais mieux attendre la nouvelle terre et avoir ces choses gratuitement. Alors, le royaume consiste à chercher ce qui est encore dans le futur, l'octroi de la gloire éternelle qui vient de Christ et quand il donnera son royaume à ses saints. Le royaume doit être manifeste dans ma vie, à travers la justice, la paix et la joie. Et il s'agit de désirer gagner les gens à Jésus pour la croissance et l'expansion du royaume. Deuxièmement, il dit que nous cherchons pas seulement le royaume, mais aussi sa justice, sa sainteté. Bien-aimés, si vous devez poursuivre une chose, ne poursuivez pas l'argent. Poursuivez la sanctification. Poursuivez-la. Recherchez-la. Nous pourrions partager quelques versets, mais nous n'avons plus de temps. Il parle ici de la justice pratique. Il dit que quand vous recherchez, recherchez la piété. Quand vous recherchez, recherchez la sanctification. Quand vous recherchez, recherchez la justice. Certains d'entre nous passent leur temps à rechercher l'argent, les voitures, les maisons, les vêtements. Qu'est-ce que nous sommes loin de ce que nous devrions rechercher? Vous dites, mais si je m'implique dans le royaume, et je me limite à la poursuite de la sanctification, alors quoi? Oh, la fin du verset 33. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Marchez dans l'intégrité. Psaume 84. Et vous ne manquerez de rien. Dieu pourvoira à chaque besoin. Dieu prendra soin de ceux qui cherchent son royaume et sa justice. Je clôture avec ceci. Je suppose que Salomon nous donne une excellente illustration. Salomon n'avait pas prié pour être riche, le savez-vous. Il n'avait pas prié pour de beaux vêtements. Il n'avait pas prié pour de merveilleux repas. Et il n'avait pas prié pour la longévité. Pourquoi Salomon avait-il prié? Pour la sagesse. Et quand il eut la sagesse, il eut aussi tout le reste. Nul n'a jamais été aussi paré que Salomon. Une fabuleuse garde-robe. Personne n'a jamais été aussi riche que Salomon. Personne ne pouvait organiser des fêtes comme lui. Juste nourrir ses femmes et ses concubines aurait été un événement monumental. Et il devait manger 3 fois par jour. Cet homme était incroyable. Il cherchait la sagesse, et en recevant la sagesse, tout le reste était résiduel. Martin Lloyd-Jones dit « Ce n'est pas par hasard que les puritains du XVIIe siècle devinrent riches. Ce n'est pas parce qu'ils amassaient des richesses. Ce n'est pas parce qu'ils adoraient l'argent. C'est uniquement parce qu'ils vivaient pour Dieu et sa justice, et en conséquence, ils ne bradaient pas leur argent sur des choses sans valeur. Dans un sens donc, ils ne pouvaient pas devenir riches. Ils tenaient aux promesses de Dieu, et incidemment, ils devinrent riches. Et une partie de la structure de leur obéissance à Dieu était de travailler dur, d'épargner, et de ne pas se complaire. Et je crois que si vous suivez de tels standards, Dieu honorera cela. Écoutez, vous inquiéter est un péché, parce que ce n'est pas nécessaire, en considération de votre Père. Ce n'est pas caractéristique de votre foi. Ce n'est pas sage à cause de votre futur. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance et il le fera. Prions. Nous te remercions pour la promesse du psaume 37 qui dit que si nous te confions nos voies et te faisons confiance, tu l'accompliras. Père, c'est notre désir. Nous savons que l'ennemi nous pousse à l'erreur et notre chair est faible, mais nous prions, Seigneur, afin que nous ne nous inquiétons pas. que nous n'atterrions pas la disgrâce sur ton nom, mais que nous saisissions la plénitude de chaque moment dans la grâce que tu pourvois pour ce moment-là, et que nous puissions vivre dans ce moment, que nous puissions laisser le lendemain prendre soin de lui-même. Ce n'est pas à dire que nous ne pourvoyons pas pour le futur. Nous ne voulons pas seulement avoir à nous en inquiéter. Et aide-nous, Seigneur, à investir dans l'éternité. Coupe les cordes qui nous lient à la terre. Puissions-nous voler vers toi, dans ta sainte demeure, dans tes parvis, pour y investir nos vies dans ta présence, sachant sans aucun doute que tous nos besoins seront comblés à travers ta promesse et la gratitude. Nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.